musique.
Caravana de maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde sur le site de la radio. Vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres, dédiée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses. Aujourd'hui, c'est terminé notre série d'été musique de ouf. Après avoir exploré avec Christophe Rémiot, Patricia Favreau, Grégoire Bressac et moi-même, Marco Caccialupi, les modalités par lesquelles ce qu'on définit maladie mentale s'exprime dans la musique, nous observerons comment la musique peut aussi être un chemin de salut. Le premier morceau que nous avons écouté était Triptych, Prayer, Protest, Peace. Triptych, Prière, Protestation, Paix, issu de l'album We Insist, Nous Insistons, par Max Roach et son Freedom Now Suit, sorti en 1960. Max Roach, comme beaucoup de ses confrères jazzman black de l'époque, s'aligna à la grande vague des Noirs aux États-Unis qui commençaient à lever leur voix contre le système raciste. La Freedom Now Suit a été un des premiers albums à célébrer la blackitude et l'orgueil d'être noir et noir américain. Max Roach était accompagné entre autres par les saxophonistes Coleman Hawkins et la chanteuse Abby Lincoln. Ce qui m'a frappé en écoutant pour la première fois ces morceaux, c'est qu'il est structuré exactement comme une suite pour une séance de musicothérapie réceptive. Il y a une première partie plutôt calme, pour permettre de rentrer dans le rythme de l'émotion qu'on veut affronter. Une deuxième partie où l'expression est assumée, même inconsciemment, et libre d'exploser. Et une troisième partie qui permet une sortie apaisée, après avoir affronté les démons intérieurs. Certes, les intentions de Max Roach n'étaient pas du tout thérapeutiques, d'autant plus que cette structure est commune à plein d'efforts musicaux depuis fort longtemps, telles que la force sonate, par exemple, et c'est bien pour cela que bon nombre de gens ressentent une sensation d'apaisement après l'écoute de certaines compositions. Néanmoins, l'effet est assuré. En général, les musiciens, tout comme les danseurs, les comédiens et autres artistes de la scène, sont conscients des effets bénéfiques que la pratique leur apporte, même sans connaître le fonctionnement de la psyché humaine. Il est plutôt courant qu'à la fin d'une bonne jam, les musiciens expriment leur satisfaction par des mots ou tout simplement par leurs expressions corporelles. Quand il s'agit d'une composition, quand c'est le cas avec Triptych, l'auteur peut donner des pistes aux musiciens pour leur faire comprendre l'état d'esprit qui doit se dégager de la performance. Dans les notes de couverture de l'album Freedom Now Suit, sont reportés les mots que Roach a utilisés pour faire comprendre à la chanteuse Abby Lincoln le sens de la dernière partie, paix. C'est les sentiments d'épuisement relaxé, après que tu as fait tout ce que tu pouvais pour t'affirmer. Tu peux te reposer, maintenant, parce que tu as travaillé pour être libre. C'est un vrai sentiment de paix. Tu sais par quoi tu es passé. Tout est dit là. En musique ou musicothérapie, le parcours est le même. Ce qui implique que toute personne pratiquant de la musique ou un autre art, en se laissant aller en toute sincérité vis-à-vis de soi-même, à différents degrés, est en train de se soigner. Ou du moins, de s'accorder un moment rien que pour soi, ce qui est déjà un chemin vers le bien-être et l'équilibre. Comme nous l'avons vu tout le long de cette série, plein de musiciens de tous azimuts ont véhiculé, dans leurs compositions, leurs problèmes émotionnels ou psychiques, avec plus ou moins de conscience du bienfait qu'elle abordait de tels sujets si ouvertement leur faisait. Un musicien que nous avons déjà rencontré dans les épisodes précédents a composé avec une grande conscience de ses effets. Allons écouter de Félix Hubert Thieffen, Petit matin, 4h10, heure d'été.
Le temps passe si lentement et je me sens si fatigué. Le silence des morts est violent quand il m'arrache à mes pensées. Je rêve de ces ténèbres froides et électriques et majestueuses, où les dandys se tiennent roides, loin de leurs pulsions périlleuses. Je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber dans cette foire aux âmes brisées où le vieux drame humain se joue. La folie m'a toujours sauvé et m'a empêché d'être fou. je me regarde au fond des yeux, dans le miroir des souvenirs. Si partir c'est mourir un peu, j'ai passé ma vie à partir. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber. Mes yeux gris reflètent un hiver qui paralyse les cœurs meurtris. Mon regard vient de l'air glaciaire, mon esprit est une fleur flétrie. Je n'ai plus rien à exposer dans la galerie des sentiments. Je laisse ma place au nouveau-né sur le marché des morts vivants. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber. Je fixe un océan pervers, peuplé de pieuvres et de murènes, tandis que mon vaisseau se perd dans les brouillards d'APN. Inutile de graver mon nom sur la liste des disparus. J'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber. Déjà je m'avance en bavant dans les vapeurs d'un vague espoir. L'heure avant l'aube du jour suivant est toujours si cruellement noire. Dans le jardin d'Éden désert, les étoiles n'ont plus de discours. Et j'hésite entre un revolver, un speedball ou un whisky sourd. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber. Je rêve tellement. Je vais finir par tomber. Je rêve tellement d'avoir été, que je vais finir par tomber.
On vient d'écouter Petit Matin à 4h10 heure de thé de TFN, issu de son album Supplément de mensonges, sorti en 2011. Il le chante très clairement. La folie m'a toujours sauvé, elle m'a empêché d'être fou. Le registre musical n'est plus ici celui de ses premiers albums, déjanté, bancal. La musique est plus posée, peut-être parce que ce qu'il affirme correspond au mot de Max Roach. Tu sais par quoi tu es passé, il n'a plus besoin de le crier haut et fort. TFN n'a jamais caché son côté hors norme. Bien au contraire, il l'a vécu dans sa vie, dans sa musique, sur scène. C'est probablement ça qui lui permet de continuer à travailler avec autant de force qu'à ses débuts, même si exprimé d'une façon différente aujourd'hui. Il a affronté sa déclamée folie, il en a été acteur. Au début, j'ai dit que la musicothérapie réceptive est une des deux approches possibles à cette pratique. L'autre, c'est la musicothérapie active, où le patient doit être acteur de la création musicale. Tiefen, comme plein d'autres musiciens que nous avons écoutés pendant cette série, a fait de la folie personnelle ou sociale un de ses sujets favoris, fondamentaux. Mais il ne faut pas oublier que, quand on part du parcours thérapeutique, il faut la présence d'une autre personne, le thérapeute, pour constituer un triangle pareil que dans la psychanalyse ou la psychothérapie avec, comme troisième élément, justement, la musique. C'est dans les interstices, les espaces entre ces trois éléments que le patient peut bouger, sortir de l'image qu'il ou elle a de soi-même, essayer de se voir d'un autre point de vue et finalement s'en sortir sur ses propres jambes. L'efficacité de l'outil musical, pour un tel parcours, est reconnue dans toutes les cultures de notre planète. Bien sûr, il n'est pas le seul, mais peut-être il y a des raisons précises pour lesquelles ça marche. Dans bon nombre de cultures, à l'origine du monde, il y a un son. Pour Platon, le cosmos était construit sur la base d'intervalles et proportions musicales. Pour Pythagore, c'était la musique des sphères. Pour les soufis, il y a une tonalité qui remplit l'univers. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, parle de harmonie sans obstacle, en se référant à la tonalité qui est la source de toutes choses. Pour les aborigènes australiens, il y a, à l'origine, le songlines, les voix des chants. Pour les natifs nord-américains, il y a une chanson du créateur. Chez les hindous, il y a le concept de Nada Brahma, qui est à la fois le créateur et son pouvoir même. Bien évidemment, nous sommes tous familiers avec le biblique « au début était le verbe ». Mais avant l'écriture, le verbe ne pouvait être que son, voire peut-être chant. De plus en plus, les anthropologues expliquent l'existence du chant chez l'être humain comme l'étape qui a précédé le langage verbal. Cela n'aurait d'ailleurs rien d'étonnant quand on considère qu'un grand nombre d'espèces animales communiquent par des sons structurés musicalement, avec des règles bien précises qui définissent leurs émissions sonores. Les oiseaux et plein d'insectes, bien sûr, mais aussi les baleines, les loups et les chiens, les chats, et la liste pourrait continuer longtemps. Le neuroscientifique états-unien Daniel Levitin, dans son excellent livre « This is your brain in music », en français « De la note au cerveau », dont je vous conseille vivement la lecture, trace le parcours du chant chez l'être humain et le sens, ou plutôt les sens, qu'il a dans nos vies. Ces analyses et réflexions, basées sur des longues années de recherche, sont à la fois perspicaces et stimulantes. Si Levitin s'est concentré sur les aspects neurologiques et psychosociaux du chant et du son, d'autres branches des sciences étudient comment le son, ou plutôt sa constituante physique, la vibration, est un élément fondamental de notre univers. La physique quantique nous montre que tout est vibration dans l'univers, tout est dans un incessant mouvement de transformation. La prise de conscience de cette possibilité de transformation, d'adaptation, de changement, enfin d'être autre que l'image qu'on a de soi-même, c'est ce qui permet à un patient de se reconstituer psychiquement. Et l'idée même des mouvements est bien évidemment à la base de la musique, laquelle, avec la danse, est l'art du mouvement par excellence, de l'inscription dans un courant qui est temps, espace, fluctuation entre les deux. Principes qui sont bien présents dans presque toutes les philosophies et les cosmogonies humaines, comme on l'a souligné tout à l'heure. Déjà en 1975, Fridtjof Capra, dans son livre « Les Tao de la physique », rapprochait les découvertes les plus récentes des sciences occidentales aux philosophies asiatiques. Aujourd'hui, se multiplient des expériences qui cherchent à déchiffrer le fonctionnement du cerveau exposé à ses vibrations, à ses fluctuations, qu'il s'agisse de méditation ou de musique, écouter ou jouer. Comme vous l'aurez désormais compris, l'élément musical fait partie d'une pléthore de pratiques de soins répandues partout sur la planète. Une des plus ancestrales, c'est le chamanisme. Présent un peu partout, en Asie, en Australie, aux Amériques, cette pratique holistique a pour but de reconnecter la personne en souffrance avec son esprit personnel et les esprits, les forces présentes dans l'univers, en passant par les corps du patient. C'est-à-dire, le corps et l'esprit sont l'une la facette de l'autre, et on ne peut pas soigner l'un sans l'autre. Auprès de certaines cultures américaines, l'utilisation de produits psychotropes comme le peyote ou l'ayahuasca est bien connue, ce qui a tristement engendré aujourd'hui toute une industrie du tourisme qui essaie de revendre la découverte du moi intérieur par la consommation de ces drogues. Tout comme depuis les années 60, on va en Inde pour suivre les enseignements des gourous qui trop souvent se sont avérés être des arnaqueurs. En dépit de ces phénomènes commerciaux, ces pratiques ont une vraie raison d'être, basée sur un savoir-faire réel. Partout où le chamanisme est pratiqué, l'aspect sonore, musical, est fondamental. Les outils principaux des chamans, hommes et femmes, c'est leur voix, accompagnée parfois par un tambour ou des grelots. Que ce soit au fin fond de la Sibérie, de la jungle amazonienne ou chez les natifs nord-américains. On va donc à nouveau laisser la place à la musique après tant de bavardages pour écouter comment chez les First Nations, les natifs nord-américains, cette pratique prend forme.
Ejuta amreza ahane wamre akupiero hey 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 oh chega ke henawa piche henawa piche ejuta amreza ahane wamre akupiero hey
Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde sur le site de la radio. Vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres, dédiée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuse. Dans le cadre de notre dernier épisode sur les relations entre musique et maladie mentale, nous venons d'écouter deux morceaux des traditions natives nord-américaines. Le premier a été interprété par un vétéran de la préservation des cultures autochtones, Erwin B. Bullhead, de la nation Lakota Sioux. Le titre est « Henna Wapisha Odowan », la chanson du tambour du rêve. Le deuxième, par les plus jeunes Young Grey Horse, jeune cheval gris de la nation de Blackfoot, les pieds noirs, et le titre est « Rebel Red », rebelle rouge. Ces deux morceaux sont complémentaires pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous avons deux générations qui se confrontent avec leurs traditions de façon différente. Erwin Bullhead, bien qu'accompagné par des assistants, comme vous l'aurez remarqué, présente un chant presque en solo, tout comme se passe pour une séance chamanique, où la musique aide à rentrer dans un état de transe pour accéder au monde immatériel. L'essence ici est d'autant plus fort que le sujet de la chanson est la naissance, la sacralisation d'un tambour, vis-à-vis des esprits et forces naturelles pour les rendre outils de soins. Il faut rappeler qu'auprès des cultures où se pratique le chamanisme, le monde du rêve est un monde tout à fait réel, où le chaman se rend pour se connecter aux esprits et chercher celui qui est responsable du mal-être du patient et essayer de le réconcilier avec son corps. De l'autre côté, nous avons le jeune cheval gris qui nous présente l'aspect plus social des pratiques des chants et danses nord-américaines, les célèbres pow-wow-wow. En général, on a une idée limitée de cet aspect de ces cultures car, suite aux innombrables films sur les Indiens Cowboys, on croit que ce n'est que des chants de guerre. Mais l'origine du mot « pow-wow-wow » en langue algonquine nous indique ses racines religieuses puisque ça s'est traduit par « il rêve ». Les pow-wow-wow est un lien social très très important et puissant encore aujourd'hui. Des festivals sont organisés régulièrement à différents endroits des États-Unis. Les participants s'habillent des vêtements traditionnels et tout le monde chante et danse à l'unisson. Si d'un côté ces événements servent à préserver des anciennes traditions, d'un autre ils sont l'opportunité pour les natifs nord-américains pour se réconcilier avec leurs racines, opérant un procédé de résiliation et se retrouver entre proches, dans des pays, les USA et le Canada, où ces minorités vivent à l'écart, victimes trop souvent des discriminations raciales. Et si vous avez l'occasion de participer à un cercle de tambour, ne ratez pas cette opportunité. La puissance du tambour est impressionnante. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance des pratiques chamaniques, je vous conseille de lire « Le chamanisme », immense œuvre par Mircea Eliade, et « La voix du chaman » par le plus grand expert vivant, Michael Harner, ou encore les livres de Carlos Castaneda. Et si vous êtes plus visuel que verbal, vous trouverez sur le site de l'American Indian Film Gallery un film extraordinaire, « Poem of Shaman », tourné en 1953 par William Hake sur SC Parish, chaman de la nation Kashayapomo, ou encore les documentaires d'autres mondes par le français Jean Kounen sur les pratiques de Shibipo en Amazonie. L'aspect des liens sociaux n'est bien sûr pas unique à ces pratiques. Presque tout le monde a fait l'expérience d'une soirée en compagnie, parfois autour d'un feu, où quelqu'un prend une guitare et soudainement une magie se réalise, et les gens se font en cercle autour du musicien pour chanter tous ensemble. En général, ça fait des beaux souvenirs. Pour continuer à parler de cet aspect de pratique communautaire, on va se rapprocher de chez nous, dans les berges de la Méditerranée. Dans le deuxième épisode dont je m'étais occupé, je vous avais parlé des Gnawa du Maroc. Une autre tradition similaire, nous l'avons dans le sud de l'Italie. Il s'agit du tarantisme et de la tarantella. Tradition jadis répandue dans tout le midi de la botte, aujourd'hui de cette pratique ne reste que l'aspect musical, vibrant avec force dans les Pouilles, et son festival de la Taranta, dans la ville de Melpignano, tout au fond du talon italien. Les prochains, d'ailleurs, débutent demain. Si vous êtes assez fou ou friqué, vous faites à temps y assister. Mais avant d'en parler, écoutons.
Siccome la tarantata, la tarantolata, se non hai il pizzico di citare la sua nervatura, non ci balla. Perché entrato io, abbiamo fatto la tarantata come si deve, tutta ritmata. E così poi abbiamo cominciato e si incanalava. A una parte se non c'era il violino non ci si suonava. We'll be right back.
Venons d'écouter la célèbre Pizzicata Rantata par le groupe Malicanti. Une fois de plus, nous avons un rythme effréné invitant une danse collective qui peut faire entrer dans un état de transe. La tradition n'était pourtant pas festive, mais thérapeutique communautaire. L'anthropologue et musicienne Serena Tellarico nous explique que, conséquence de l'insupportable chaleur du midi, les hommes et surtout les femmes tombaient dans un ennui que la communauté s'apprêtait à soigner, en cherchant tous ensemble le rythme le plus adapté à soigner la victime de cet état altéré qui va danser jusqu'à son épuisement. Dans ces cas aussi, c'est la personne en son entier, corps et esprit, dont on prend soin. Tout cela trouve ses racines dans les traditions dionysiaques de la Grèce ancienne, où l'ordre et le désordre se donnent rendez-vous pour que le désordre se porte garant de l'ordre. Ce qui rejoint aussi le discours de Michel Foucault sur la relation entre raison et déraison dont il a été question lors de notre premier épisode. Vous pouvez en savoir un peu plus sur le site en français de Serena Tellarico, www.serenatedelarico.net. Et si vous habitez dans le midi, vous pourrez peut-être même participer à un des stages sur la tarantella qu'elle organise, car elle habite Marseille. Mais retournons de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons voyager dans les routes de l'esclavagisme colonial. Cette pratique affreuse a fait ainsi que les cultures africaines débarquent aux Amériques. Santeria cubaine, candomblé brésilien, voodoo haïtien, toutes ces traditions ont leurs racines en Afrique noire. Nous allons nous concentrer sur les voodoos, trop souvent tout simplement associés au mythe sur les zombies. Cette tradition aussi utilise rythme et danse ensemble dans le but de soigner les souffrants de son état de possession par les mauvais esprits en invoquant les dieux bénéfiques, mais pas que, comme on va écouter. Toutes ces divinités dans la culture voodoo sont appelées Loa, et dans la tradition, la transe est le moyen pour faire libérer les passions, quelque chose comme ce qu'on entend en arrière-plan. Mais le voodoo se transforma, tout comme la tarantelle, là au fil des siècles, pour devenir lui aussi un genre de spectacle. Bien que les pratiques voodoo traditionnelles existent encore, à côté, nous avons aussi ce genre de réalisation.
Bye.
Nous avons écouté Loa Azaou, interprétée par Emerante de Pradines. Elle était une chanteuse et danseuse qui avait baigné dans les premières adaptations des sons et danses vaudou pour les Blancs, mais les textes de ce morceau ne s'éloignent pourtant pas des traditions religieuses et historiques. Il est question d'invoquer le Loa Azaou, une divinité qui provoque des blessures qui ne se soignent pas. La chanteuse l'appelle. « Azaou, où es-tu ? Je te cherche. Je n'ai ni famille, ni amis. Je n'ai ni père, ni mère. Je viens de Guinée. Azaou, où es-tu ? » D'un coup, nous avons la pratique et ses origines. Les origines du mal, entre autres, le mal du pays. Il n'est pas à négliger l'aspect particulier de l'histoire d'Haïti, deuxième pays américain à obtenir son indépendance du pays colonisateur, en l'occurrence la France de Napoléon Ier en 1804, qui rendit ce pays mal vu de la part des autres colonies avoisinantes, mais en même temps fit ainsi que la culture vaudou puisse continuer à prospérer, car librée du joug du colonisateur. Pour en écouter davantage, je vous conseille de chercher le coffret en 3 CD publié par les musées du Quai Branly, Haïti Voodoo, Ritual Music for the First Black Republic, qui contient un texte qui résume bien l'histoire de cette tradition. Jusque-là, nous avons écouté des pratiques où le soin passe par une forte et considérable énergie, parfois très brutale même. Chamanisme, tarantella, voodoo, etc. ne sont pas pour les plus sensibles. Mais est-il possible d'envisager un autre moyen pour utiliser la musique et la danse à des fins thérapeutiques ? Oui, il suffit de se remettre en voyage, pour aller quelque part par là-bas.
Om, Om Shakti. ஓம் சக்தி என்பவர் உண்மை கண்டார் சுடர் உண்மை கொண்டார் உயிர் வல்மை கொண்டார் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் கணபதிராயன் அவனிரு காலை பிடித்திடுவோம் குணமுயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே கணபதிராயன் அவனிரு காலை பிடித்திடுவோம் குணமுயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சொல்லுக்கடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்களெல்லாம் வல்லமை தந்திடுவாள் பராசக்தி வாழி என்றே துதிப்போம் சொல்லுக்கடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்களெல்லாம் வாழி என்றே துதிப்போம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் வெற்றி வடிவேலன் அவனுடைய வீரத்தினை புகழ்வோம் சுற்றி நில்லாதே போ பகையே துள்ளி வருகுதுவே வெற்றி வடிவேலம் அவனுடைய வீரத்தினை புகழ்வோம் சுற்றி நில்லாதே போ பகையே துள்ளி வருகுதுவேல் ஓம் சக்தி Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Tamarai Puvinile, Surudiyai Thaniyirundurai Paal. Poomani Thalinaye, Kannilotri Punniyam Ezhuthuvom. Tamarai Puvinile, Surudiyai Thaniyirundurai Paal. Poomani Thalinaye, Kannilotri Punniyam Ezhuthuvom. Om Shakti Om Shakti Om. Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om. Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Pambu Thalai Mele Nadam Seyyum Padathinai Pugalvom. Mambala Vayinile Pulari Seivanvai Pugalthiduvom. Pambu Thalai Mele Nadam Seyyum Padathinai Pugalvom. Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Selvathiru Magalai Thidam Kondu Chindanai Seidhiduvom. Selvam Ellam Tharuvaal Namadoli Dikkanai Thumparavum. Selvathiru Magalai Thidam Kondu Chindanai Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Om Shakti Om, Shakti Om, Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Para Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om.
Comme vous l'aurez compris, nous étions en Inde, en particulier dans le sud. C'était la voix de Aruna Sairam, grands chanteurs inscrits dans la tradition carnatique. Le titre du morceau, Om Shakti Om. Om étant le son primordial de l'univers, celui qui est considéré le plus proche au son créateur de la vie. Shakti est la divinité féminine par excellence de l'hindouisme, le pouce de Shiva. La danse des deux divinités permet la rencontre du sacré féminin et du sacré masculin pour donner naissance à la vie et trouver l'ordre dans le cosmos. Différemment de tous ceux que nous avons écoutés auparavant, où le rythme est bien scandé et stable, dans les musiques classiques indiennes, le rythme est instable. Il est fluctuant, il ralentit et accélère en s'adaptant au chant qui porte le message, souvent en thématique religieuse. Le chant lui aussi ne suit pas toujours la même cadence. La chanteuse ou chanteur, tout en restant dans le cadre modal du morceau, doit sentir au plus profond de soi ce qui est juste à chaque instant pour s'offrir en véhicule à la musique et offrir la musique au monde. Cette écoute de l'instant est bien évidemment une suite naturelle des pratiques religieuses qui utilisent aussi les moyens les plus concrets de la méditation et du yoga. Dans l'univers, rien n'est stable. Tout est fluctuation, mouvement. L'équilibre, l'harmonie sont le fruit d'une perpétuelle recherche. John Coltrane, dans ses dernières recherches, était en train d'aller dans la même direction. Et ça n'a rien d'étonnant que sa femme, Alice Coltrane, dans les années 70, ait suivi les pas de son mari dans ses explorations à la harpe, instrument où les corps peuvent résonner aussi par sympathie. Dans les musiques indiennes, ce qui donne la stabilité, c'est la note de base, posée par les tampura, instrument à cordes de la famille des sitars et sarodes, au son riche et articulé avec ses corps qui résonnent par sympathie. C'est-à-dire que certains corps sont frottés alors que d'autres sont mis en mouvement par la vibration qui émane des premières. Vibration par sympathie, consonance. Une harmonie est créée par la rencontre des fréquences proches, mais pas tout à fait les mêmes. La rencontre du matériel et de l'immatériel. Cette vision du monde résulte des écritures sacrées indiennes, les Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita. où déjà dans ces textes si anciens, il est question de garder une harmonie entre l'esprit et le corps, où la prévention est plus importante que le soin, où donc l'idée des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire que les souffrances dans le corps sont l'expression d'un déséquilibre de l'esprit, est déjà tout à fait claire. Si vous pratiquez l'anglais et vous voulez aller un peu plus loin sur ces sujets, vous trouverez des articles très détaillés et clairs pour un lecteur occidental dans le site du National Center for Biotechnology Information. L'effet en musique est celui de créer une présence constante et pourtant jamais pareille à elle-même. Serait-ce la fréquence des bases de l'univers ? Voilà ce qui nous relie aux théories quantiques et dont vous trouverez des très bons exemples dans un livre que je vous ai cité tout à l'heure, « Le Tao de la physique » par Fridjof Capra. En Inde, la recherche du bien-être par, entre autres, la musique et la danse, s'est faite par des chemins plus délicats. On pourrait peut-être dire que c'est le correspondant féminin de l'énergie masculine qui dégage des pratiques chamaniques. Entendons-nous bien, il s'agit d'énergie et non pas de rôle. Tout comme il y a des chamanes femmes, il y a en Inde des chanteurs et chanteuses, hommes et femmes confondus, qui invoquent et accompagnent vers une harmonie intérieure et profonde, une vraie harmonie et non pas une toute simple relaxation. Chez nous, on peut trouver de plus en plus des CD de musique relaxante, où ces traditions sont mélangées avec des sons de claviers électroniques. Or, à mon humble opinion, ces produits sont de la merde. Je ne nie pas une sensation d'apaisement qui peut arriver de ces musiques, mais ça ne peut rester qu'un apaisement très superficiel, tout comme nous pouvons le recevoir en écoutant de la variété. Certes, ça peut faire plaisir, mais non pas nous soigner. Ce n'est qu'une distraction. La musique peut se révéler efficace comme outil de soins seulement quand elle reste art, c'est-à-dire comme nous avons vu dans un épisode précédent, quand ça vient des profondeurs de l'interprète, quand il ou elle y met son corps et son âme. Seulement quand ça, elle peut se faire moyen des mises en articulation, en mouvement, des aspects cachés chez toute personne. Et pour aller en profondeur, il faut que l'outil aussi puisse aller en profondeur. Une musique commerciale ne fera que virevolter la surface. Par contre, des musiques qui sont pratiquées et jouées en tant que telles, des musiques qui expriment les états les plus profonds de l'être humain, peuvent provoquer des effets bénéfiques à long terme. Tout parcours thérapeutique, que ce soit pour des problèmes de santé mentale ou physique, doit passer par une étape de souffrance, ou du moins, de difficulté. Sans destruction, il n'y a pas de reconstruction possible. Le premier morceau que nous avons écouté aujourd'hui, le triptyque de Max Roach, représente précisément ça. Que cela soit fait selon les règles, oui, avec un accompagnement adapté, bien attentionné et bien intentionné, mais sans éviter toutes les aspérités du voyage. Comme on l'a entendu avec le morceau d'Arunasairam, ce chemin peut se faire aussi avec grâce et délicatesse, pourvu qu'il y ait la patience de poursuivre jusqu'au bout. Le musicien spécialiste des musiques carnatiques, Jean-Paul Aubou, a écrit « L'imagination musicale n'est pas une rêverie errante, mais un moyen d'appréhender et d'interpréter le monde qui permet non seulement de suggérer un autre ordre de réalité, mais aussi de le relier par des forces d'émotion qu'il suscite. » Restons en Asie pour aller écouter d'autres accompagnements possibles par le biais de la musique.
Sangkaraemamempodaendatu sanginda angai manga andale kanta bekara Lenaku ayo andai tungun aku lesu mangku rupo ngole sumangat nuda endatu mamote engeran ringi badan nukalu latungubu kalu latu budain datu letaringin tindai batang kalenu lepalapang alakori nak bidain datu lebarani ingiak ji sangare baji ingin nubi jak belanu ungu bijak ngase mati mpuru le surat bangaturi jawa karain le amami ngiripu lombang kengiri amang ami iri amami ingiri lang alandai empamarun tanah.
Ces voix nous arrivent d'Indonésie. Le premier morceau était une berceuse. Le deuxième, un chant d'accompagnement pour un enfant malade. Ils sont issus d'un CD Okora Radio France, Indonésie, chant d'apaisement, très soigné, anthologie des musiques typiques d'une certaine partie de l'archipel indonésien, éloignée des grands centres et avec un caractère propre à ces cultures-là qui n'a rien en commun avec les plus connues musiques javanaises et balinaises. Ces traditions vivent depuis des siècles avec les peuples des îles. Leur but déclaré est de soigner, d'apaiser les conflits entre clans et familles, mais aussi pour entrer en contact avec des entités visibles et invisibles. Elle est profondément inscrite dans le quotidien des gens. Leur pulsation est douce, demandant et permettant une grande intimité. Une mise en relation privilégiée, typique justement des berceuses. Ça raconte immédiatement d'une relation mère-enfant où le but de la mère est d'apporter de la sérénité à l'enfant en lui faisant sentir sa proximité. Pourtant, parfois, ces apparences sont trompeuses. C'est le cas du prochain morceau. Je vous laisse essayer de deviner pourquoi.
Oh,
C'était Takeda no Komoruita, nouvelle berceuse de Takeda, une chanson traditionnelle japonaise très populaire au pays du soleil levant, datant de quand Kyoto était encore la capitale, dans l'interprétation du groupe Akaitori. En dépit du temps très très doux, les paroles révèlent une autre situation que les cadres habituels mère-enfant. Je déteste être nourrice. La neige commence à tomber et l'enfant pleure. Comment pourrais-je être heureuse quand le festival Bon arrive? Je n'ai pas de beaux vêtements. Cet enfant n'arrête pas de pleurer et il est méchant avec moi. Jour après jour, je maigris. Je me répartis au plus vite pour rentrer vers la maison de mes parents que je vois là-bas. C'est donc la nourrice qui parle, une jeune fille qui a été envoyée par ses parents travailler dans la maison d'une famille plus riche. Elle exprime toute la frustration de cette gamine à ne pas pouvoir vivre sa vie comme elle l'aimerait. Profitant du cadre intime, parfois les berceuses se font moyen pour dire ce qui ne peut pas être dit ouvertement. Parfois elles ne sont pas adressées au bébé. Mais c'est une façon pour la mère ou la nourrice, quand c'est le cas ici, de faire sortir son angoisse. Ceci pourrait être celle d'une mère épuisée par son rôle et nombreuses sont les berceuses qui révèlent ce côté trop souvent non avoué de la maternité. Il y a aussi des berceuses qui ont pour sujet la guerre ou autre situation opprimante. En réalisant cette mise en scène, la femme fait un acte de résilience. Un procédé de la sorte est aussi celui des chants de guerre, ou né dans ces contextes, quand c'est le cas pour les deux morceaux qui suivent.
Mama, 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 mama מנקזמות, אקינה. I'm Tarek Bala. I'm Tarek Tarek and Kalpa Bala. I'm my. Mama and Kuzma Takina are you coming? Yan Yan Manu. Asumela Hosmi Sira Tailan. Mama and Kuzma Takina. Asalu Artimi Benini. Tao Tiorum Nakampahe. Mama and Kuzma Shorta. Mama narastya rajanet matagnyara ikamay Mama net karta rajanet matagnyara ara ikara ikara ikamay I'm fellu mala I'm gashek mala yubala
Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde sur les sites de la radio. Vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres, dédiée aux musiques singulières et fortes d'expression curieuse. Les deux enregistrements qu'on vient d'écouter ont été réalisés par Richard Ayan en Haut-Karabagh. Cette région appartenant historiquement à l'Arménie fut annexée par l'Union soviétique en 1921 à l'Azerbaïdjan. Suite à l'écroulement de l'URSS, la région se déclare pays indépendant et, bien que la guerre se termina officiellement en 1994, depuis, est dans un état de guerre civile presque permanente et largement ignoré. Le premier morceau intitulé « Le cimetière » fut enregistré dans un cimetière. Une femme pleure en psalmodiant sur la tombe de son fils. Le violoniste qu'on entend en arrière-plan est là, régulièrement, pour accompagner les deuils des familles. Le deuxième, qui porte le titre « La vie continue », chanté par une gamine de 10 ans, à des temps patriotiques, inévitables dans un cadre où on se sent attaqué de par tous les côtés. Et les coups que vous entendez en arrière-plan du deuxième morceau, c'est bien des coups de canon. Dans les deux cas, la musique se fait véhicule des souffrances des gens, pour y mettre de la distance, pour essayer de se réparer psychiquement. Boris Cyrulnik est la référence de cette pratique psychiatrique de plus en plus utilisée dans les chemins du soin, appliquée pour toute personne ayant vécu un traumatisme violent, comme par exemple les réfugiés qui arrivent des régions en guerre. La lecture de ces ouvrages peut s'avérer utile, pas seulement pour les professionnels, mais aussi pour toute personne sur un chemin de reconstruction personnelle. Ces chemins ont été parcourus aussi, sans cet outil bien sûr, par nombre d'artistes. Ce fut le cas par exemple du compositeur italien Giacinto Scelsi. Figure presque méconnue du XXe siècle, son œuvre demeure néanmoins immense par son intégrité et puissance, et elle est marquée par une recherche d'ordre sonore et spirituel sans compromis. Scelsi, dont le nom est un mot, un verbe, qui signifie le passé simple du verbe choisir à la première personne du singulier, choisit de se faire interner dans un hôpital psychiatrique, suite à une crise très profonde. Pendant son séjour, il passa des longues heures au piano du centre, en tapant sans relâche sur les mêmes notes. Et voilà ce qu'il relata de cette expérience. Dans les cliniques, il y a toujours des petits pianos cachés, Un jour, je me suis mis à jouer. Do, do, ré, ré, ré. En insistant longtemps sur une note, elle devient grande. Si grande qu'on entend de plus en plus d'harmonie, elle grandit à l'intérieur de vous. Le son vous enveloppe. Le son remplit le lieu où vous êtes. Vous pouvez nager dans son intérieur. Mais le son est créateur autant qu'il est destructeur. Il est thérapeutique. Il peut guérir comme détruire. Le résultat de cette période fut une série de 4 compositions qu'il nomma tout simplement 4 morceaux pour orchestre, chacun sur une seule note. On va écouter le 4e et dernier de la série. Comme vous l'avez entendu, la musique n'évoque pas, selon nos critères habituels, sérénité, paix, tranquillité. Elle est tellurique, elle secoue depuis ses fondations. Et pourtant, ce fut le moyen pour Chelsea de s'en sortir, tout seul. Celle-ci est une belle leçon pour apprendre à se méfier des apparences. Au début de mon activité de musicothérapeute, je me suis trouvé assisté des kinésithérapeutes qui travaillaient dans la réhabilitation. Nous avions convenu d'utiliser des musiques relaxantes pour alléger le travail pour les patients. Un de nos patients, un jeune homme resté à moitié paralysé suite à un accident de moto, à la fin de sa première séance, nous avoua avoir été gêné par la musique. Nous l'invitâmes donc à venir la fois d'après avec une cassette à son goût. il arriva avec une cassette de hard rock et s'est mis au travail de bon gré. Ce n'est pas parce qu'une musique a un rythme calme que ça peut vraiment calmer. Ça pourrait très bien taper sur les nerfs. Des musiques vigoureuses telles que les métal ou les gothiques ou la techno à l'apparence laissent l'écouteur sous un choc sonique. Mais des gens qui sortent d'un concert ou d'une soirée où ils ont absorbé des volumes à fond la caisse peuvent bien rentrer chez eux dans un état de plénitude, car ils ont écouté ce qui leur correspond le mieux. Sans compter les raisons pour lesquelles on se met à écouter ou jouer une musique spécifique. Cela a à voir avec l'histoire personnelle, individuelle de tout un chacun et personne ne peut se permettre de juger un autre seulement sur la base de ses goûts artistiques. On peut ne pas les comprendre, mais ils sont légitimes pour la personne qui en tire du bien-être. Même en laissant d'à côté tous les discours mystiques et spirituels des cultures que nous avons survolés aujourd'hui, il est indéniable que quand on écoute une musique qui nous plaît, on se sent bien. La découverte d'une musique nouvelle peut devenir le moyen pour quelqu'un de se sortir d'une situation agaçante, intolérable. Un geste de révolte parfois, comme ça a été le cas avec le rock'n'roll pour des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions. Chaque génération a apporté ses variations sur ce genre, mais les fonds restent les mêmes. Une tentative d'auto-affirmation, de trouver sa place dans le monde, non loin du besoin d'autodétermination dont nous avions parlé il y a 3 semaines pour les personnes étiquetées fous par une société qui ne veut pas se prendre le temps de comprendre l'autre. Et ce chemin d'autodétermination peut littéralement sauver une vie, physiquement, qu'on chante Lou Reed dans le dernier morceau de notre émission, Rock'n'Roll. Cette chanson, apparue dans le dernier album Loaded de son groupe The Velvet Underground en 1970, est basée sur sa propre expérience. Lou Reed racontait avoir été bouleversé, secoué et avoir vécu une vraie révélation la première fois qu'il a entendu Elvis Presley chanter Heartbreak Hotel. Ensuite, il n'a jamais plus abandonné sa guitare électrique. Voici quelques extraits du texte. Jenny a dit que quand elle avait juste 5 ans, il n'y avait rien qui se passait du tout. Chaque fois qu'elle écoutait la radio, il n'y avait rien, du tout. Finalement, un beau matin, elle mit une station de New York. Tu sais, elle ne pouvait pas croire à ses oreilles. Elle commença à bouger sur cette belle musique. Tu sais, sa vie fut sauvée par le rock'n'roll. En dépit de toutes les amputations, tu savais que tu pouvais simplement sortir et danser sur une station de rock'n'roll. Et tout allait bien. Tout allait bien. Oui, baby, tout allait bien. Avant de vous laisser danser sur cette chanson comme la petite Jenny, et si vous ne dansez pas, c'est que vous êtes mort, quelques mots de remerciement. En premier, merci à vous de nous avoir suivis le long de ces voyages. Nous espérons vous avoir donné des musiques et des mots qui vous apporteront des réflexions, et des idées et des pistes à creuser. D'ailleurs, je vous propose chaleureusement encore un livre, Musicologie, par Oliver Sacks. Et puis je veux remercier bien sûr Christophe Frémiot pour nous avoir motivés autour de cette thématique, et aussi Patricia Favreau et Grégoire Bressa pour avoir participé à cette aventure. Je veux aussi remercier très chaleureusement Judith Kahn et Corinna Torreggiani pour l'écoute et les conseils. La semaine prochaine, vendredi 1er septembre, nous aurons comme invité Tom Johnson. Et maintenant, rock and roll!
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. She hears it all.
Now, and it was